Alors, je vais revenir une nouvelle fois parce que c'est comme ça. Hein. C'est comme ça qu'il va arriver à préciser quelque chose. Sur l'importance du langage. Alors, je reviens, pourquoi ? Parce que c'est comme ça, on n'y pense pas du tout. Et on est naturellement porté à croire à ce qu'on voit. Et au voir, et donc au savoir habituel, qui est en fait, puisqu'il s'agit de voir, qui n'est pas un savoir, qui sont des connaissances. Alors, on doit faire la différence, Lacan fait bien la différence entre le savoir et les connaissances. Et d'emblée, la question du connaître pose, vous savez, cette question qui est implicite dans le mot « connaître », seulement de la dimension de la naissance, mais du fait que on se connaîtrait comme ça, du fait que on n'est pas étrangers l'un à l'autre. Et dans ce mot « connaître », il y a la métaphore sexuelle, bien sûr, et qui est bien sûr qui rentre dans la structure du fantasme du rapport sexuel. Hein? On pourrait dire, comme ça, a priori, qu'un homme connaîtrait une femme quand il a fait l'amour avec elle, ce qui n'est pas du tout évident. Hein? Et puis qu'une femme connaîtrait un homme quand elle a fait l'amour avec lui, ce serait peut-être déjà plus conséquent de ce côté-là, mais il n'en reste pas moins vrai que ce que l'on essaie d'aborder, c'est-à-dire la dimension du savoir, c'est autre chose. Ne serait-ce que parce que ce que l'on essaie de définir, c'est l'existence d'un savoir qui ne va pas de soi, puisque il ne peut qu'exister à ce qu'avec Lacan nous appelons le discours analytique. Alors, et ce savoir, c'est le savoir inconscient. Vous voyez que tout ceci est assez défini, calibré, on ne peut plus dire n'importe quoi à partir de là. Si on rajoute aussi que le savoir, que le discours analytique n'advient que du fait d'un lien particulier, d'un lien étrange, d'un lien nouvellement apparu avec Freud, au niveau de cette étrange articulation qu'on appelle le transfert, qui n'est pas le transfert sur quelqu'un, ça c'est de la vulgarisation, c'est pas le transfert sur le père, etc. Non, ça c'est des résistances, on dit Lacan. Ça permet de penser. Donc c'est des résistances. La question du savoir et conscience, c'est le fait que il y a. Hein? Il n'y a pas besoin de le dire à celui qui parle. Il le sait, mais il ne sait pas qu'il le sait. C'est ça que ça veut dire. Il ne faut surtout pas lui dire, parce que si on lui dit des choses, il ne pourra jamais avancer dans cette direction. C'est-à-dire qu'il sait tout à fait bien, chacun d'entre nous, chaque être parlant, sait tout à fait bien ce qu'il a à savoir. Mais il ne sait pas qu'il le sait. Voilà le tricot qu'il faut arriver à faire, le tricotage, la torsion, le fait qu'il n'y a plus un intérieur à l'extérieur, le fait qu'on peut passer de l'intérieur à l'extérieur du seul fait de parler. Et ceci évoque évidemment tout ce que Lacan a développé du côté de la topologie. Là, pour montrer que ça ne va pas de soi, certains d'entre vous sont peut-être allés. Bref, bientôt tous les jours, il y a un commentaire sur un séminaire, un des premiers séminaires que j'ai fait cette année-là, le premier et le deuxième, donc j'ai parlé du brillant de la voix. Eh bien, il y a un nommé, il a beaucoup de noms d'ailleurs, hein, je ne vais pas citer les noms, hein, vous allez voir sur YouTube, vous allez vous réarrêter. Et je parle de là parce que ça montre ce qui peut arriver quand on pense que ce qu'on dit c'est vrai. L'expérience du transfert est là pour justement aller contre le fait que quand on parle, on ne sait pas ce qu'on dit. Alors quand on prend ce qu'on dit pour vrai, on est dans un discours habituel où on pourrait dire, on peut échanger, ça a une valeur d'échange tout à fait particulière, et dans le cas précis, ça conduit à cribler d'insultes quelqu'un. Je retiens le mot cribler, alors il parle de con, il parle de bon. Je prends cet exemple-là parce que on pourrait dire dans le registre psychiatrique qu'il est paranoïaque, ce qui est effectivement vrai. Mais ce qui est plus important, c'est d'essayer justement d'avancer sur le fait que finalement, il fonctionne aussi comme tout nous porte à fonctionner comme lui. Dès que, comme je viens de le dire, on croit à ce qu'on dit. Lui, il croit qu'il est le dépositaire du chant lyrique, et notamment qu'il a la bonne méthode. Donc les autres n'ont pas la bonne méthode. Voilà, c'est tout simple. Je veux dire que chacun peut tomber là-dedans. Le problème, c'est est-ce qu'on va pouvoir s'arrêter ou est-ce qu'on va en permanence, dans ces cas-là, revenir on appelle ça le harcèlement, c'est à la mode, hein. Mais on dirait plutôt que ne pas pouvoir faire autrement que de toujours être attiré par quelque chose. Puis en rajouter, il rajoute rien, mais en fait c'est toujours du même ordre. Eh bien, ceci, cette façon de penser, il ne suffit pas de dire à la personne que finalement, il se prend pour, parce qu'au contraire, ça renforce encore les choses. Il importe de prendre la mesure du fait que il est en quelque sorte, quand on est comme ça, dans cette position-là, on est dans ce qu'on a appelé un discours évidemment complètement basé sur l'être, le maître, c'est une chose, puis alors on va y aller, l'être suprême. Alors, lui, il est l'être suprême, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que il ne peut pas s'empêcher de s'adresser à celui qui est supposé par lui, qui est posé comme étant l'être suprême pour lui, puisqu'il n'arrête pas de revenir tous les jours, faire un commentaire, etc. Tout ça pour dire que il y a, au-delà des énoncés, j'insiste bien, parce que là, les énoncés, ça n'apporte pas grand-chose, les énoncés, c'est la pensée. C'est ce qui fait qu'on peut dire quelque chose de ce qu'on pense. Et habituellement, eh bien, le penser est identique à la pensée. Eh bien, on est tous pris là-dedans. Il y a une adéquation entre le penser et la pensée. Et finalement, le monde est pensé comme ça. C'est-à-dire que notre représentation du monde, avec évidemment dans cette perspective de l'autre, notre représentation du monde est adéquate à quoi ? À la pensée, à la nôtre. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout d'altérité là-dedans. Là, on va pouvoir décrire toutes sortes de choses par rapport à ça, mais on reste dans cette dimension du voir et de, bon, pas prendre du savoir, de la connaissance qui est, après tout, celle que tout scientifique peut découvrir, puisque lui aussi, il se base sur ce qu'il voit. Et ce qui n'est jamais approché dans la dimension scientifique, ou quasiment, c'est le fait que, il est comme tout le monde, le scientifique, il ne peut pas être objectif dans la mesure où il a ce qui lui passe dans la tête. C'est pas possible, il ne peut pas être un logiciel, en quelque sorte. Donc, il y a quelque chose qui va se développer, Et ça pourrait expliquer, par exemple, que toutes les grandes découvertes, elles surviennent d'erreurs. Il y a un moment, il y a une erreur qui est faite, et l'erreur, elle n'est pas liée au protocole. Pourtant, le protocole, c'est obéir. Donc, c'est qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui fait que, voilà, il y a quelque chose qui est rencontré. Plus exactement, il est pris, il est saisi. Le savant, ou n'importe qui, chacun d'entre nous, il est saisi par quelque chose, par une sorte de voix qui ne peut pas s'entendre avec les oreilles, qui pourrait lui dire quelque chose comme ça, de part d'un lieu qui existe à la pensée, c'est-à-dire qui n'existe pas. Parce que pour nous, dès que ça existe à la pensée et qu'on ne peut pas le penser, on dit ça n'existe pas. Ça vient d'un lieu qui pourrait lui dire quelque chose comme ça, un peu comme ce qui peut se passer dans une découverte scientifique. Hein. Tu me dois quelque chose, d'où je te dévore. Alors, évidemment, si j'allais dire ça comme ça à la télévision, je suis fou. Et pourtant, c'est ça qui est en jeu. Le chercheur, c'est quelqu'un qui n'arrête pas d'être en dette, il doit... comme moi je le suis pour le moment, puisque je suis là, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos regards, qui pourraient dévorer, être dans cette position comme ça, d'être dirigé sur moi, et je pourrais avoir besoin d'un papier pour me soutenir, là, à ce moment-là. Le fait que je puisse vous parler comme ça, c'est d'une certaine façon, c'est pour faire un peu comprendre ça, le fait que je pourrais recevoir une sorte de message inversé, c'est pas « je », c'est un « tu », de ce lieu de l'autre qui pourrait me dire ceci, tu ne me dois rien, d'où je te dévore. Et ça, ça s'appelle la pulsion orale. Autrement dit, pour parler de la pulsion orale, il n'y a pas besoin de la représentation du corps, de la bouche, etc. C'est dans le langage. C'est ça que je voulais vous dire. Dès que l'on parle, on met en jeu quelque chose sans le savoir. Et ce quelque chose qu'on met en jeu, c'est quelque chose qui relève de la dimension du pulsionnel. Alors, ce monsieur ou ces messieurs-là qui se cachent sur Internet pour intervenir, comme ça, là, sinon on ne sait pas qui est-ce, hein, et puis c'est comme ça, hein, ça fait partie de la technologie, donc il faut bien les laisser faire. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est en train de développer beaucoup de choses, parce que c'est très intéressant d'être critiqué, finalement. Hein. Mais l'important, c'est le fait que il nous enseigne dans quelle mesure il est possible, quel que soit le contenu du savoir, hein, c'est pas de ça dont je parle, je parle du discours là. Hein, donc je ne suis plus dans le savoir, dans le fait de savoir ce qui a raison et qui a tort. Hein, il nous enseigne le fait que, je dirais, dès que nous parlons avec des mots, bien sûr, qui ont plus ou moins une valeur d'échange. Tout est basé là-dessus. L'important, c'est que c'est une valeur d'échange qui ne laisse pas l'autre du tout, d'ailleurs, pouvoir penser quoi que ce soit, qu'il soit d'accord. C'est ça qui est visé. Et c'est-à-dire qu'il faut que, si on continue un peu cette perspective-là, il importe que les mots utilisés soient criblés, vous voyez le criblé d'injures qui arrive, c'est-à-dire que ça passe par des trous suffisamment conséquents pour que ils puissent avoir une valeur d'échange pour l'autre. Et cette dimension-là du discours, c'est celle que l'on peut appeler de l'universel du tout. Et il y a une chose qui va complètement au contraire de ça, c'est l'inconscient qui, lui, ne peut être que particulier. C'est-à-dire que l'inconscient ne peut en aucun cas relever d'un discours scientifique. Le discours scientifique vise, avec ses petits, un discours du maître, un discours universel, universitaire, discours historique, si on prend les références de Lacan. Hein. Le discours, donc, le discours analytique, celui d'où existe l'inconscient, ne peut en aucun cas relever cette dimension du tout. Hein. Du tout, c'est-à-dire qu'on peut dire, à partir du discours analytique, c'est un enseignement du discours analytique, j'insiste bien, ce n'est pas les données analytiques transmises psychologiquement hein, dont je parle. Ça n'a rien à voir avec ça. Les données analytiquement transmises sont du discours scientifique. Le stade oral, le stade machin, etc. Ça, c'est du discours scientifique. Hein. Il a fallu qu'on y passe pour avoir des diplômes, parce que ça ne pouvait pas être autrement. Mais ça, c'est du discours scientifique. Hein. Plus ou moins calé, mais ça vient à ça. Le discours analytique, il est insaisissable. Hein. C'est ce que je vous ai dit dans la formule. Tu ne me dois rien, d'où je te dévore. Aller raconter ça, ça ne va pas aller bien loin. Bon. Eh bien, c'est une façon de parler hein, de cette chose, cette formule que Lacan dit avoir reçue de Claude Lévi-Strauss. L'émetteur reçoit du récepteur son propre message sous forme inversée. Puisque c'est un « tu ne me dois rien » qui vient de l'autre, c'est donc bien un message inversé que je vais recevoir par le passage du tu au je, donc je ne dois rien. Alors quand on se met à parler et qu'on voit l'importance des il faut, je dois, etc., on voit bien l'importance de cette référence-là à ce champ de l'autre, c'est-à-dire qu'on est en permanence pris dans le fait qu'on n'arrête pas de répondre. Du moins, c'est ce qu'on pense, hein. C'est ce qu'on pense, ou c'est ce qui nous soutient, hein. Parce que l'autre, évidemment, il ne dit jamais ça. Évidemment, il ne dit jamais ça, puisque l'autre, il n'existe pas. C'est nous qui le faisons exister, et nous adresser ça. Mais l'autre, il ne dit jamais ça. Et pourtant, le seul fait qu'on soit pris là-dedans montre que c'est la vérité. Et vous voyez que la vérité, dans le cas présent, c'est celle du mensonge. Puisque, justement, l'autre n'existe pas, il ne peut pas nous dire ça, et pourtant, on est pris là-dedans. Vérité du fantasme, c'est-à-dire cette épreuve particulière de réalité. Je ne sais pas si je vais arriver soit à parler de la voix, comme je suis parti, mais je voulais annoncer ça parce que on est pris dans ce discours-là. Je crois que si on vient notamment se mettre à parler à quelqu'un qui va nous laisser parler, si possible, hein, eh bien, c'est parce qu'on a une sorte de, peut-être de pressentiment de quelque chose, une sorte d'intuition inconsciente, il ne faut pas le penser, du fait que, eh bien, quand on parle, on est seul, premièrement. On est seul. Même si on parle à quelqu'un d'autre, hein, on est seul, et qu'il peut parfois arriver, alors c'est ça, c'est une énigme, il peut parfois arriver que cet autre qui n'existe pas, puisqu'on parle seul, c'est ce que ça veut dire, hein, quand je dis autre, hein, je vous rappelle, c'est grand A, c'est pas quelqu'un qui est là qui me cause, hein, hein, c'est la structure du langage, l'autre c'est la dimension du langage, hein. Donc, cet autre qui n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas au sens où il n'a pas d'existence. Ça veut dire que quand je pense, moi, eh bien, je ne peux pas arriver à le penser. Donc, je peux dire qu'il n'existe pas. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez, toutes les formulations de Lacan sont toujours très ambiguës, parce qu'évidemment, on pourrait dire, hein, comme la femme n'existe pas. On reviendra là-dessus. Donc, primo, importance du langage. C'est ça, c'est là-dessus que ça part, parce que c'est à partir de là que apparaît ce lien social nouveau, au début du hein, 1900, on va dire à peu près, quoi, début du 20e, fin du 19e siècle, avec Freud qui l'a plus ou moins bien repéré, hein, c'est pas évident du tout, c'était pas évident pour lui. Et ce qu'il a pu repérer, lui, c'est ce discours particulier qu'on peut expliquer, il s'est débrouillé pour essayer d'expliquer ce discours particulier qu'il pouvait recueillir plus exactement ses connaissances, là si je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, ses connaissances sexuelles qu'il pouvait recueillir, voyant quoi, ben, c'était pas Internet, mais il a trouvé immédiatement des adversaires, parce que quand on rencontre des adversaires, ça veut peut-être dire que justement ce qu'on dit a un certain intérêt. Il a rencontré des adversaires qui évidemment ont tout retourné les choses de travers, bien sûr. Puisque c'est ça, l'adversaire, c'est celui qui fait verser ce qui lui arrive dessus, autrement. Pour ne pas le rencontrer au sens où s'il le rencontrait, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait le faire, lui faire toucher du doigt autre chose. Alors, ce discours-là, ce discours, c'est cette façon de présenter les choses habituelles. Hein? Si j'ai fait référence à ceci, ce n'est pas spécialement pour défendre une position. C'est pour dire qu'on est tous pareils, mais plus ou moins. On est tous pris dans ce crible particulier. Pour autant que les mots ont une définition, c'est-à-dire que, ben, qu'est-ce que c'est qu'un crible, vous savez, c'est un trou. C'est un trou qui permet que certaines choses passent et d'autres ne passent pas. Donc on nous a appris la définition des mots, c'est-à-dire à ce que ça puisse passer dans les trous. Tel ou tel mot veut dire ça, c'est-à-dire qu'il peut passer dans tel trou et c'est aussi valable pour l'autre. Un dictionnaire, c'est ça, c'est d'une certaine façon. Eh bien, cette valeur-là, c'est la valeur d'échange. Et se pose la question, c'est ça la découverte de Freud, de savoir s'il n'y a pas autre chose, un autre type, une autre type de valeur. C'est ça le fond, on peut dire ce qui est en jeu. Et lorsque quelqu'un accepte, on va dire, le jeu de se mettre à parler, ce qui est à l'horizon de ça, c'est que ce qui compte, ce n'est pas la valeur d'échange, c'est la valeur d'usage. Voilà. Alors, habituellement, on est dans la pensée qui dit que on use de quelque chose pour échanger, hein, on use des mots pour échanger, pour comprendre, pour se faire comprendre. Et ce que je suis en train de dire, c'est que la valeur d'usage n'est pas sous la direction de la valeur d'échange. Voilà, ça marche pas comme ça, en fait. Ou quand ça marche comme ça, eh bien, c'est le discours habituel, on va dire le discours psychologique, hein, pour le discours médical, philosophique, etc. Philosophique aussi, bien sûr, hein. Philosophique aussi. Hein. C'est pas du tout dire du mal des philosophes. Je parle de discours. Hein. Tel que Lacan en parle, je vais pas redéfinir, ça c'est compliqué. Mais on est pris naturellement dans ce type d'échange. Et on use de quelque chose pour échanger. Même on en abuse. Hein. Alors que l'important, ce à quoi peut conduire le fait de parler, de venir parler, c'est que les mots en quelque sorte dont on va user, alors, avec toute la difficulté qu'on peut rencontrer par rapport à certains mots qui vont nous faire penser à d'autres mots, c'est le fait que on sculpte en quelque sorte un espace et un temps qui, justement, ne sont pas ceux de cet espace de cet espace criblé que l'on connaît bien. Hein? Ou du moins, qu'on a bien pris à connaître de par nos études, par exemple. Celui de la mécanique grecque, ça existe depuis 2002-2003, au moins, hein, c'est pas nouveau. Hein. La dimension de la sphère, du plan, tout ça, c'est toute la géométrie grecque. Il aura fallu, au même moment que la psychanalyse, l'apparition de la physique quantique qui change complètement, l'apparition de la musique qui change aussi complètement les données, hein, la peinture aussi, enfin, tout change à ce moment-là. C'est étrange, il ne faut pas trop faire d'explications, parce que justement, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Un changement, on ne peut pas l'expliquer. Alors bien sûr, on ne va pas se gêner pour l'expliquer. Mais toutes les explications que vous donnez après, ça ne change rien du tout au fait que, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, quelque chose s'est donné autrement. Comme dans une découverte, d'ailleurs, scientifique. Par exemple, qu'est-ce qui fait que Pasteur, c'est pas très loin, qu'est-ce qui fait que Pasteur, qui lui se met à faire des recherches, qui est un vrai chrétien, les autres scientifiques parlent même, c'est un vrai curé, un vrai, il y a de quoi, on est dans la région. Eh bien, il avait dans l'idée, lui, ce que l'on appelle la génération spontanée, c'est-à-dire que dans un flacon, si on laisse un certain temps un flacon comme ça, il va apparaître des microbes. Pourquoi ça apparaît? On ne sait pas. Réponse, c'est Dieu. Il permet que ça apparaisse. Voilà la réponse chrétienne. Et il va se rendre compte un jour, sans doute il a fait une erreur, il a laissé quelque chose dans le flacon, et il n'y a pas eu de microbes. Voilà, typiquement, et à partir de là, il en a déduit un certain nombre de choses, que je veux dire que ça montre à quel point quelque chose de nouveau peut apparaître. Alors pourquoi il a fait ça? Ça c'est toute la question, mais ça le concernerait lui. Néanmoins, quelque chose de nouveau va apparaître, à partir de quoi un certain nombre d'éléments vont être développés. Et donc, cette dimension, madame, d'un discours où on fait intervenir Dieu, Dieu ça peut être l'écologie, Dieu c'est pas spécialement, c'est ce qu'on voudra, il ne faut pas croire que Dieu c'est spécialement celui qui est je sais pas où là, je dis l'écologie, pourquoi pas, ça peut être la politique, ça peut être ce qu'on voudra, ça peut être la psychanalyse d'ailleurs, exactement pareil, ça peut être la musique, celui dont je parle là, c'est la musique, lui c'est tout comme il faut faire. Eh bien, Napoléon, il se prenait pour... il croyait en Napoléon, il se prenait pour Dieu. Eh bien, dès qu'on est dans cette dimension de l'être, ça c'est la dimension de l'être, on se met à parler... pour que... Je parlais de la dimension de la sculpture, c'est ce qui m'est venu, je pourrais dire autre chose. Pour que, parlant, on arrive à creuser un trou dans la matière. On pourrait dire dans l'âme à tiers. On va encore parler de la question de l'âme. Eh bien, dans cette... âme à tiers, dès que je dis l'âme à tiers, vous voyez que le langage intervient, je ne suis plus du tout dans la question de l'âme, justement, je suis dans autre chose. Dans cette dimension de la matérialité, quand je me mets à parler, ce qui est attendu, c'est là qu'on va voir intervenir la voix, je pense, progressivement, ce qui est attendu, c'est qu'en parlant, donc, non pas je fasse passer les mots dans les trous qui sont prévus, c'est le crible, ça. Pour communiquer, mais que je creuse quelque chose dans le langage, et ce que je vais creuser, c'est quelque chose qui, comme le potier, lorsqu'il crée le trou, à partir de quoi le vase est fait, puisque ce que fait le potier, il creuse un trou, et... ce que l'on appelle le vase, c'est d'abord un trou qui aura un bord, qui sera entouré, mais c'est un trou, qui sera plus ou moins, on va dire, plus ou moins artistique, ou artisanal, selon le génie de la main là, la main du créateur, on pourrait dire. C'est-à-dire, chacun de nous est créateur, il n'y a pas besoin qu'il y en ait un quelque part qui soit créateur. Chacun de nous peut être créateur, et bien quand je parle, et j'ajouterai, quand je chante, ce qui est en jeu, c'est la possibilité, alors, que cesse l'importance du signifié. C'est-à-dire, le fait que je ne cesse pas de toujours prendre en considération les trous du crible, c'est-à-dire que je passe dans ce qui est attendu, hein, dans ce qui est bien connu, pour que la pièce en question soit bien calibrée, ça soit bien défini, hein. Mais que ce qui est attendu, c'est que, puisque ce trou-là, il est déjà là, le crible, il est là le trou, donc on n'a plus qu'à essayer de passer par là, mais ce qui est attendu, c'est que je creuse le trou d'où je vais advenir comme sujet. Et dans cette métaphore-là, on peut un peu entendre quelque chose de ce qu'est la dialectique de l'inconscient. C'est-à-dire que de même que les mains du potier se mettent d'une certaine façon, et que de toute façon, ça se fait sans que le potier y pense, hein, c'est pas un truc, il n'y a pas besoin qu'il parte, je ne sais pas comment. Hein. Eh bien, de la même façon, parlant, à un certain moment, quelque chose va faire que, comme je l'ai fait par exemple tout à l'heure, quand j'ai parlé la matière, quelque chose va jouer au niveau de l'équivoque, c'est-à-dire que je ne suis plus dans le sens qui correspond au crible, au trou du crible, voyez en quoi je peux cribler quelqu'un d'injure, voyez la richesse de la langue, c'est extraordinaire, hein. Il faut trouver exactement le trou qui convienne, hein, et le trou qui est connu, hein. Mais il y a la possibilité, d'une part, que cesse ce fonctionnement-là, évidemment ça ne va pas cesser comme ça pendant longtemps, il suffit d'un instant où ce fonctionnement-là du crible disparaisse pour que, si ça advient, et on ne pourra le en dire quelque chose que dans l'après-coup, ce qui nous fait parler du futur antérieur, c'est pour autant que ça aura été que je peux le reconnaître. Je ne peux pas le reconnaître avant, parce qu'autrement je suis dans la dimension du trou et du crible, c'est-à-dire que je pense, et plus je pense, plus je censure, donc moins je peux, à l'instar du potier, creuser quelque chose dans la matérialité du langage pour faire apparaître quoi ? Ce qu'on appelle le signifiant. Et là, un peu, quelque chose nous revient, un peu, juste quelque chose, comme ça, on peut tout d'un coup être touché par quelque chose, qui est cette formule de Lacan, le signifiant présente le sujet pour un autre signifiant. On n'est pas du tout dans le sens et dans le signifiant. Alors, encore peut-être 5-10 minutes. Alors du coup, ça va nous ramener à la voix, quoi, au chant et à la voix, dans la mesure où, et là je vous parle un peu de quelque chose qui semble d'une extrême importance. Pourquoi ? Parce que c'est exactement pareil pour la voix, voilà, c'est ça que je veux dire. Alors ouvrez vos oreilles parce que c'est pas du tout évident. On pourrait dire, dans le champ lyrique, si on va être catégorique, il n'y a pas de voix naturelle. Bien sûr qu'il y a une voix naturelle, mais il n'y a pas de voix naturelle. C'est-à-dire la voix que vous avez quand vous chantez, comme ça, la voix que j'avais avant quand je chantais, ce qu'on appelle une voix naturelle, alors qui est plus ou moins développée, hein, on est d'accord, hein, hein. Eh bien, celle-là, elle ne marche pas dans le champ lyrique. Voilà. Autrement dit, pour arriver à chanter dans le lyrique, c'est ça l'importance de ma découverte, moi, après une analyse, que c'est venu après mon psychanalyse, toute cette affaire-là, bien sûr. C'est pour ça que je peux dire quelque chose, je pense, de ça. C'est pour ça que je peux parler du crible, dont j'ai essayé de parler tout à l'heure, hein, les souvenirs d'enfance où j'assistais à quelque chose, là. Je n'ai pas retrouvé le mot, là. Vous savez, il y a ces machins, je ne sais plus comment on faisait, là, avec la graine qui passait dans un espèce de tamis. Et on voyait, il y avait de l'air qui enlevait le... comment ça s'appelle ce truc ?
Livrée.
Pardon ?
Séparer le grain de livrée.
Oui, mais comment ça s'appelle cette opération ? C'est une machine toute simple, hein ?
Battre.
La batteuse ?
Non, non, c'est pas la batteuse. En fait, c'est autre chose. Non, non, c'est pas la batteuse.
Non, non, c'est pas le son du drain.
Alors, eh bien, il y avait un tamis qui bouge comme ça, mais c'est pas la batteuse, c'est encore autre chose. C'est après, on repassait après, moi, chez mes parents, ils ramenaient les sacs après, et puis on faisait ça après. Donc il y avait déjà ça dans la batteuse, mais après on faisait ça, puis il y avait un peu de... Il y avait un peu de débris qui volaient comme ça. Et moi, je me rends compte que je suis resté comme ça, un peu en foudre, à regarder ça, je ne savais, il ne demande pas pourquoi. Mais c'est de ça dont je parle aujourd'hui. Autrement dit, je peux dire que à ce moment-là, peut-être que si j'avais pu dire quelque chose, évidemment, ce n'était pas le moment tellement, eh bien, il aurait pu, il aura été quelque chose. Et c'est maintenant que je dis. Eh bien, je reviens là, dans cette expérience du champ, quand il n'y a pas de voie naturelle, c'est catégorique, évidemment, elle existe, la voie naturelle. Mais l'importance de la voie lyrique et de la voie de l'opéra, et ça se différencie alors de tous les trucs qui se passent actuellement avec les sonos, parce que les sonos, ben, c'est fait pour des gens qui, justement, n'ont pas de voix, par définition. Une espèce de prothèse, comme ça, là. Qui font qu'en plus, ils ne savent pas chanter, donc ils hurlent. Il n'y a pas d'autre solution. Et puis, évidemment, comme on est tous criblés pareil, ben, dans la salle, tout le monde hurle. C'est ça, le crible. Vous voyez, ça va loin. Et ça peut aller, effectivement, à toutes sortes de décharges. Ce n'est pas lié spécialement à l'agressivité des gens. C'est simplement qu'on a des espèces de trucs en nous, des espèces de fantasmes, comme ça... aussi bien raciste qu'autre chose, tout ça, qui font que ben, il suffit comme ça qu'il y ait une certaine ambiance pour que ça apparaisse. Alors je reviens, parce que je ne vais quand même pas m'arrêter avant d'avoir dit un mot là-dessus. Ce que l'on découvre, alors, il y a aussi une technique, ça ne se fait pas comme ça, il faut trouver quelqu'un, c'est comme une analyse, il faut trouver quelqu'un avec qui ça puisse marcher cette affaire-là. Il n'y en a pas beaucoup en France. Voilà. Je suis bien placé pour le savoir. Je ne vous en dirai pas plus. Eh bien, c'est pour autant que, de même que quand je parle, évidemment, les sons sont formés d'une certaine façon, avec l'air que j'expire, puisque je parle sur l'expiration, j'inspire et je parle, c'est pareil quand je chante, le son il est fait sur l'expiration, eh bien, de la même façon, on peut dire que, enfin, c'est quelque chose qui m'apparaît de plus en plus vraisemblable, qui a une grande proximité entre le fait de parler et le fait de chanter. Il y a une grande proximité, si on peut, si on aura pu un jour sortir du crible. Voilà. Et l'inconscient, c'est ça, c'est le moment où on sort du crible. Alors, tout ce que je vous dis là, je ne l'ai pas pensé, c'est maintenant que ça cogite, là, pendant que je vous parle, et que je réponds à cette interrogation qui vient de vos regards portés sur moi. Cette dévoration. C'est pour ça que ça a de la valeur. Eh bien, Je pense qu'effectivement, maintenant, là, ce qui est en jeu dans le fait de chanter, plus particulièrement, parce que la voix est saisie là où elle a quelque chose de tout à fait secret, c'est-à-dire qu'il est possible de démettre des sons qui correspondent à des harmoniques. Alors, on y va. Qu'on ne savait pas qu'on pouvait produire. Ça ne veut pas dire que c'est l'inconscient. Néanmoins, quand ces harmoniques sont produites, je vous garantis qu'on ne s'endort pas en écoutant quelqu'un. Ce n'est pas le charme, ni le charmoille, c'est autre chose qui est en jeu, c'est le fait que il y a possibilité de par cette voie qui est trouvée, comme le trou dont je parlais tout à l'heure, qui est creusé, comme celui que creuse le potier. Le potier, lui, il va créer quelque chose. Et on sait par exemple que, il y a des expériences, je ne sais plus, j'ai lu ça récemment, là, qui vont très très loin là, dans l'histoire, que quand on fabriquait notamment des des objets particuliers comme ça, en entendant de la musique ou pas, ce n'étaient pas les mêmes choses qui étaient faites. Alors là, on dérive rapidement sur le discours scientifique. On explique les fréquences, etc. Ce n'est pas de ça dont je parle. Même si on pourrait l'expliquer aussi comme ça. Eh bien, quand je parle, vous entendez les harmoniques là, puis je peux les faire entendre encore plus si je respire vraiment comme quand je chante. C'est-à-dire, si je fais ça. Oui! Pas possible de ne pas se réveiller là-dessus. Eh bien, c'est ça l'enjeu de la voix, celle qui réveille, et c'est ça qui est en jeu, vraisemblablement, dans ce quelque chose qui passe, qu'on appelle la couleur, la chaleur, le timbre, et qui, vous voyez, n'a rien à voir avec tous les discours qu'on a pu entendre. Alors, aussi, ils nous ont rabattu les oreilles, là, hein, depuis 15 jours, les criblés, là, hein, c'est tous des criblés, hein, alors là, hein, ils essaient, en plus, ils s'adressent à nous comme criblés, hein, évidemment, hein. Et alors ils vont avoir peur, parce que c'est dimanche que ça se décide. Bon, eh bien, ce qui est attendu, là, en fait, quand je parle, ce qui est attendu, si je viens parler, si je rencontre quelqu'un qui me permet de découvrir ces harmoniques dont je parle, là, ce qui est attendu, c'est que je puisse répondre à une question, la même que tout à l'heure, quand je vais être face au public, je vais chanter, et qui sera la même, hein, à savoir, non pas que je dois quelque chose au public, mais tu ne dois rien, d'où je te regarde. Abandonaste, e tradita, abandonaste.